Une des meilleures semaines de badminton de l'année vient de se terminer. Les finals, c'est toujours un événement et on va débriefer l'édition 2023 tout de suite dans ce nouvel épisode de
21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational.
I'm the bad guy.
Take that.
Salut Benoît, comment vas-tu?
Salut Ewan, bonjour à tous. La meilleure semaine de badminton de l'année, je voudrais quand même te corriger. Et tu te doutes bien que ça va bien, mais on va y venir très très vite.
C'est vrai que je parlais en général, bah c'est une très bonne transition Benoît, parce que je disais que les finals c'est pour moi une des meilleures semaines en général chaque année, mais autant il y a eu des éditions parfois un peu décevantes, notamment pendant le Covid, autant là Benoît on a vu une vraie grosse semaine et moi personnellement je me suis régalé.
Ouais, enfin il y avait Cento mais sinon c'était bien ouais.
Ah ouais, donc d'accord, très très bien, Benoît est venu avec le fusil chargé, attention à ceux qui ont fait des mauvaises perfs, et il y en a, il
oui.
Y en a eu des très bonnes aussi, il y en a eu des très bonnes, on va en parler, évidemment comme vous y attendez peut-être, pas de français cette année dans ce tableau, je pense notamment à Tom Jiquel et Delphine Delru qui auraient été ceux qui avaient le plus de chances d'y participer. On va donc, contrairement à d'habitude, pardon, commencer d'abord par les groupes et ensuite on ira vers demi-finale, finale, parce que ça a plus de sens pour un tableau qui se joue comme ça. On va commencer, Benoît, par le simple homme et ce groupe A. Alors, vous allez voir qu'on va passer plus de temps sur les demi-finales et finales que sur les groupes, puisque Benoît, j'allais dire, les groupes, tu peux te permettre d'en perdre un et passer quand même, et c'est exactement ce qu'a fait Victor Axelsen, qui s'est incliné dès le premier jour contre Shiyushi, 21-19, et bah Benoît, une défaite d'Axelsen, ça reste un événement quand même.
Ouais, ça reste un événement, et puis c'était, j'ai envie, enfin en fait, je trouve que c'est pas une petite défaite, tu vois ce que je veux dire? C'est une défaite en entrée de match des finals. Victor Axelsen, il venait avec la possibilité de battre le record de Lee Chong-wei en termes de victoire. En vrai, je pense qu'il n'est pas venu aux finals pour faire de la figuration. Et l'entame avec une défaite face à Shiyushi, le signal envoyé, t'étais là, ok. Puis pas un Axelsen mauvais, mais vraiment un Shiyushi très très bon.
Ouais, c'est ça, on en reparlera peut-être la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine notre bilan de l'année, si oui, oui je crois oui. Que c'est la semaine prochaine. On en reparlera de l'année de Victor Axelsen, mais il a été, je pense, moins impressionnant cette année que l'année dernière.
Oui, oui, oui.
Après, il faudra voir si ça se vérifie au niveau des stats. Mais quand même, on s'attendait effectivement pas à le voir chuter. Et on s'est demandé ce qu'étaient ses ambitions dans ce tournoi. Et Benoît, côté Shiyushi, lui aussi, on a beaucoup espéré avec son retour, mais il nous a vraiment tout montré, Shiyushi, hein, du bon et du beaucoup moins bon. Donc à domicile en plus, puisque je ne l'ai pas dit, ça se jouait à Hangzhou en Chine, c'était un bon signal envoyé.
Ouais, c'est un bon signal envoyé, mais t'as raison. En fait, je trouve que cette poule de finals de Shiyushi, elle est à son image un peu sur son retour de suspension. T'as tout dit, on a vu du très très bon et du beaucoup moins bon et du on comprend pas trop.
D'accord, bah restons sur lui. Après, il joue contre Ginting, il perd 11-21, 21-7, 21-17. Et après, il gagne contre Naraoka 18-21, 23-21, 21-21-13. Un match donc très très chaud contre Naraoka. Qu'est-ce que t'as trouvé de moins bon, enfin, qu'est-ce que t'as pensé de ces perfs globalement?
En vrai, le niveau, si on fait un niveau moyen, tu bats Axelsen et Naraoka, donc les deux premiers joueurs mondiaux quand même. Donc le bilan, il est bon, mais en fait, c'est dans le contenu, parce que même face à Ginting, où je trouve que tu fais un premier set, j'étais là, bon, ok, Shiyushi, il est sur sa lancée du match contre Axelsen. Et puis, tu prends 7 au deuxième, t'exploses un peu. Dans le troisième, il y a 17, mais je trouve que Shiyushi est plus trop dedans. C'est vraiment Ginting qui a l'initiative, qui domine, et j'ai du mal à capter parfois l'implication de Shiyushi à l'intérieur d'un match ou d'un tournoi. T'as l'impression que c'est ce que t'as dit, en fait, on passe par tellement de phases, il n'y a pas vraiment de constante.
Ouais, c'est très difficile de décrire son état d'esprit parce que je trouve que sur le terrain, il a une manière d'être où on a du mal à savoir s'il est à fond ou pas, je trouve. Et je pense que ça le dessert un peu parfois. Je pense aussi c'est aussi de là que viennent peut-être ses problèmes, les problèmes qu'il a eu en Chine avec le staff chinois et tout, parce que c'est vrai qu'on sait jamais vraiment s'ils veulent gagner ou pas le match. Côté Axelsen, il s'est plutôt bien repris après en battant Naraoka 21-17, 21-9. Il a lâché le premier set contre Ginting et donc s'est retrouvé en danger, puisque à ce moment-là, c'était celui qui gagnait, qui passait, mais finalement, il a gagné 21-7, 21-13. On reviendra sur Axelsen. Par contre, Benoît, j'aimerais t'entendre sur Ginting qui, lui, pour le coup, a fait une année vraiment très très mauvaise. Et là, franchement, il fait une semaine très très bonne où il bat Naraoka en 3, puis Shiyoshi en 3 avant de perdre contre Axelsen en 3. Et le fait qu'il finisse 3ème, égalité donc de victoire avec Axelsen et Shiyoshi, mais il passe pas finalement au 7 gagné, je trouve ça ultra sévère pour Ginting. Mais j'espère pour lui qu'il pourra s'appuyer sur cette bonne semaine l'année prochaine.
Ouais, j'espère aussi maintenant. En fait, sur les finals. Tu sais que t'as les 8 meilleurs joueurs à peu près de la saison, mais c'est toujours dur je trouve, de tirer des conclusions parce que justement c'est les 8 meilleurs joueurs qui s'affrontent alors qu'on sait que dans un tournoi ça se passe pas comme ça en vrai. Et limite, tu vois, je suis plus en mode, je juge les finals plus comme une Thomas Cup où tu sais que tu vas affronter les meilleurs des autres équipes. Mais c'est pas forcément on a parlé de Chiyoshi, mais pour Ginting, tu vois, c'est pas forcément le reflet d'une saison entière.
Ah non, mais justement, moi, j'avoue que je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais je pensais qu'il allait prendre une volée, moi, cette poule. Hein. Je pensais qu'il finissait avec 3 défaites. Hein.
Oui, je suis d'accord avec toi. J'aurais pas dit, enfin, en tout cas, j'aurais pas dit que c'est Naraoka qui finirait avec 3 défaites. Et,
non, moi non plus.
Et que Ginting, potentiellement, pourrait sortir Axelsen, parce que c'est de ça dont on parle. Surprenant la physionomie de cette poule avec des joueurs qui ont. Bah, qui n'étaient pas tous sur leur lancée de la saison, quoi. La beauté des finals. Hein.
Et je te fais une transition parce qu'on va pas rester 1000 ans sur chaque poule.
Ouais.
Avec Vititsarn, on commence par lui peut-être. Vititsarn qui passe pas les poules et qui perd 3. Alors là, pour le coup, il n'y a eu aucun match en 3-7 dans cette poule. Vititsarn qui prend 18 et 8 contre Christie, 18 et 22-20 contre Li Shifeng et 16 et 11 contre Antonsen. Est-ce que ça t'a surpris? J'ai vu quelqu'un qui le notait dans le Discord. C'est vrai qu'avec Naraoka, ça veut dire que c'est les deux finalistes des championnats du monde qui prennent 0 victoire à eux deux sur cette édition. C'est surprenant aussi. Après Vititsarn, ça s'explique un peu plus parce que physiquement ces derniers temps c'est compliqué quand même.
Ouais, il y a eu une petite coupure, il a été blessé. En fait, pour moi, je suis plus inquiet du contenu de Vititsarn qui a été très loin de pouvoir gagner un match. Naraoka, s'il finit avec 2 victoires dans la poule d'avant, c'est pas illogique. Vititsarn, Vititsarn, c'est clairement le moins bon joueur des deux poules. Grosse déception, mais comme tu l'as dit, plutôt prévisible. Encore une fois, je me répète là-dessus, mais pour moi, c'est pas. Je sortirai pas de là en disant ouais, Vititsarn, double finaliste mondial et champion du monde surcoté, tu vois.
Non, clairement pas. Je pense que lui aussi, il doit avoir hâte de passer à 2024 de pouvoir se reposer un petit peu, je pense. Là, ça a été encore plus serré puisque Antonsen, Christie et Li Shifeng finissent avec le même bilan de match, c'est-à-dire 2 victoires, 1 défaite. Alors Antonsen a battu Li Shifeng 21-18, 21-12, Christie a ensuite battu Antonsen 21-16, 21-18 et Li Shifeng a battu Christie 21-13, 21-18, donc ils étaient tous à 2 matchs gagnés, 1 défaite et 4-7 gagnés, 2 perdus, et c'est du coup Antonsen qui est passé premier et Christie qui est passé deuxième au point average. Donc là, ça s'est vraiment joué à rien du tout, à une dizaine de points en gros, pour savoir qui allait passer, et une dizaine de points sur 6-7 joués, c'est vraiment pas grand chose. Benoît, est-ce que tu as quelque chose à me dire sur ces trois joueurs? Est-ce que c'est le fait que le Chinois passe pas et que le Danois et l'Indonésien se qualifient? Est-ce que tu trouves ça logique? Qu'est-ce que t'en penses?
Bah, tu m'aurais demandé de faire un prono avant, peut-être que j'aurais mis Li Shifeng et Vititsarn en demi-finale. La vérité, c'est quand même que je trouve quand même que de manière générale, cette poule était beaucoup plus faible que l'autre.
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je suis surpris que Li Shifeng passe pas.
Ouais, pareil, ouais.
Mais il est face à deux mecs, un mec qui revient bien, surtout Antonsen et Christie qui fait une bonne saison, mais bah, on l'a vu sur les demi, hein, on l'a vu laquelle poule était la plus forte sur les demi. Bah, d'ailleurs, tiens, on va y passer tout de suite. Le Shiyushi Christie, 21-16, 21-15 pour le chinois. Grosse, enfin, pas grosse déception, mais ce match qui est très bien parti, je trouve. On a vu des très belles choses en début de match. Et le Shiyushi avait l'air un peu fatigué. Alors, quand il a pris le premier, j'ai espéré encore avoir un gros match dans un deuxième et éventuellement un troisième. Finalement, il a mangé l'Indonésien au début du deuxième set et assez déçu de cette perf de Christie face à un Shiyushi qui semblait assez prenable.
Ouais, il y a du... Ouais, je suis assez d'accord avec toi, mais j'ai aussi l'impression que Shiyushi, il était presque facile dans ce match. C'est pas une insulte, hein. C'est juste que j'ai l'impression qu'il était un peu en mode dans un fauteuil, tu vois, et j'ai pas vraiment senti... j'ai senti à aucun moment dans le dur. J'ai senti facile, vraiment, hein.
Ouais, mais tu vois, moi, je suis un peu d'accord avec toi, mais j'étais en mode, si Christie arrive à le chercher un peu, je suis pas sûr que Shiyushi, il ait une grosse marge, tu vois.
Ouais, mais, enfin, ouais, oui, je suis d'accord avec toi, mais j'avais l'impression, justement, que Christie avait pas le jus pour aller le chercher.
Non, moi non plus, alors que je pensais que ce serait plus Shiyushi qui manquerait de jus.
Mais c'était une des pires demi-finales, de tout tableau confondu, enfin on va pas.
Alors je suis pas d'accord avec toi puisque il y a ce deuxième match dont j'allais parler maintenant.
J'ai dit une des pires. C'était une transition, je te la donne.
Ah oui, bah parfait.
La pire,
une
elle
des
est
pires
là.
Puisqu'il y a celle-ci aussi là.
Ah, oui.
Pourtant on en attendait pas mal de ce match entre Danois. Ça fait, ils se sont pas joués tant que ça ces derniers temps, Axelsen et Antonsen. Voilà, Antonsen qui a pas eu du tout les réponses pour jouer Axelsen, 9 et 14, une grosse tôle. Il sauve un peu le bilan à la fin, mais le contenu du deuxième, c'est la même chose que le premier, hein. Il y est pas du tout. Et Benoît, grosse déception. Je vais te laisser te donner son avis, ton avis sur le match. Moi, j'ai pas compris ce qu'a voulu tenter Antonsen tactiquement. Enfin, je comprends pas à quel point lever sur le coup droit d'Axelsen, ça peut donner des bonnes choses. Mais après, bon, j'ai pas trop compris.
J'ai senti que tu voulais dire, bon, après, je suis pas Anderson Tonsen, mais après, quand tu prends 9 et 14, Ewan, c'est que t'as été mauvais, hein. Anderson Tonsen,
ouais, non,
ou
mais
pas.
C'est. Non, mais tu vois, il le connaît, c'est bizarre plan de jeu, je trouve.
Ah, mais le plan de jeu à côté de la plaque, vraiment, hein. Et puis, il s'est entêté là-dedans, en plus, j'ai trouvé.
Ouais, moi aussi.
J'ai pas trop capté, alors est-ce que derrière, on lui a dit, vas-y, frérot, c'est la bonne strat, il faut continuer. Ben, peut-être aussi, mais franchement, j'ai l'impression qu'il est à côté de son sujet, quoi, Anderson Tonsen. Enfin, j'ai très déçu, vraiment très déçu de cette performance et du match, du coup.
Ouais, c'était un match un peu pourri, hein. La finale était pas beaucoup mieux. Victor Axelsen, donc, qui retrouvait Shiyushi, le seul mec qu'il avait battu cette semaine. On espérait un match un peu dans la même veine, quel que soit le vainqueur, hein, mais un match serré. Il n'y en a pas eu du tout, puisque Victor Axelsen a éteint Shiyushi 21-11, 21-12. Benoît, c'est ce que tu me disais juste avant qu'on enregistre, c'est que Shiyushi nous a permis d'y croire un petit peu en début de chaque set, mais après, il s'est fait manger. Physiquement, il était plus là, Shiyushi, et Axelsen, on sentait, enfin, j'ai l'impression, moi je le sentais un peu, une fois qu'il s'est qualifié de sa phase de groupe, il avait un peu fait le plus dur, j'ai l'impression.
Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, mais c'est aussi des mecs en face qui ont craqué physiquement, qui se sont liquéfiés. Je l'ai pas trouvé, enfin, c'est ce que disait Arnaud Merkel quand il est venu, mais tu vois, il est capable de gagner même quand il est pas à 100%, et je trouve qu'il y avait un peu de ça. Est-ce que je l'ai trouvé plus sensationnel qu'au premier match ? Non. Est-ce que j'ai trouvé Shiyushi 20 ou 30% moins bon ? Oui.
Ah, je suis d'accord.
Je crois qu'il a marqué 5 points après les pauses à 11. En cumulé, hein, pas sur chaque set.
C'est terrible.
Non, mais voilà, tu peux rien faire.
Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Axelsen, je trouve que ça se voyait à sa réaction. Bon, après, Axelsen, il a toujours des réactions bizarres quand il gagne, mais je trouve qu'il avait limite du mal à croire qu'il avait gagné. Et alors, j'aime pas dire ça parce que, c'est un peu ce qui m'embête avec le simple homme, c'est que Axelsen, il est très fort et il arrive à gagner quand il est pas à 100%. Mais avec ce Axelsen un peu moins fort, faudrait vraiment qu'il y en ait qui arrive à aller le chercher et pas seulement en poule, tu vois.
Oui. Après, sur cette saison, je pense que ça reviendra dans notre bilan à tous les deux, mais ça a été le cas puisque il est pas champion du monde. Il fait une énorme saison sur le circuit, mais il a quand même loupé le coche là-dessus au moins. Ça a été le cas, mais c'est trop peu le cas. Ça, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, bah, sa réaction aussi, c'est peut-être pour lui donner une défense, c'est pas le sujet, mais c'est peut-être aussi lié au fait qu'il bat le record du nombre de victoires aux finals du roi Li Chongwei. C'est quand même
ça,
peut-être
c'est vrai
lié.
Que c'est incroyable. Hein. 2016, 2017, et après, il a refait une série de 3, du coup, 2021, 2022, 2023.
Ouais.
Incroyable, hein, franchement. Shiushi avait déjà gagné en 2018. Là, je parle de ceux qui étaient là, ouais. Anton Sen notamment en 2020. Mais ouais, c'est incroyable et ça montre bien sa domination sur le circuit parce qu'on parle d'années, enfin, je vais pas dire moyenne, mais au final, il prend 3 super 1000 sur les 4.
Ouais.
Il est pas champion du monde, mais il gagne les finals, il gagne au Japon. Enfin, c'est ouais, on en reparlera, mais la saison reste assez incroyable. Allez. On passe tout de suite au simple dame.
I'm the bad guy.
Take that!
Alors, le simple dame, parlons de ce premier groupe où il y avait Han Se-young, puisqu'on parlait d'Axel Sen qui perd direct. Han Se-young, qui est un peu, qui est même totalement la Axel Sen du simple dame, fait la même, et en plus contre une adversaire encore plus surprenante, Kim Ga-eun, donc sa compatriote, qui la bat 21-18. J'ai vu, je crois que c'est Gil Clark, ou alors c'est Steen Pedersen, je sais plus, qui mettait sur Twitter que Kim Ga-eun, c'est la joueuse qui avait le moins de points pour se qualifier dans tout tableau confondu. Et elle tape celle qui en a eu le plus pour se qualifier tout tableau confondu, c'est-à-dire Han Se-young dès le premier match. Là aussi, Benoît, il y a des explications, mais ça reste une surprise quand même.
Une énorme surprise. Il y a des explications, je suis d'accord. Mais en fait, le niveau de Kim Ga-eun sur l'ensemble des finals, en fait, je suis obligé de le remettre un peu dans le contexte. C'est qu'il n'y a pas eu un one-shot. Elle a vraiment... Enfin, j'ai presque des regrets parce qu'on le dit tout de suite, mais elle ne sort pas de cette poule. Elle l'aurait presque mérité tellement son niveau sur les finals, il a été au rendez-vous. Elle n'est pas venue là en touriste. Et en fait, c'est clairement la surprise du chef. Déjà ce premier match, mais même son niveau de manière générale. Parce que, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je la voyais ni battre Han Se-young, ni rivaliser avec ce qui se fait de mieux dans le monde. Parce que Han Se-young, Tae Tsui-ying et même Toon Young, actuellement, c'est une des joueuses les plus en forme du circuit.
C'est clair. Bah, Toon Young, ça avait été un peu la surprise l'année dernière. Elle s'était qualifiée, on n'y croyait pas, et au final, elle sort pas alors qu'elle fait des super perfs. Bah, là, Kim Ga-eun fait un peu la même chose. Ce qui est terrible, c'est qu'elle tape Han Se-young dès le premier match, et Han Se-young va sortir première de cette poule, et elle dernière. C'est quand même assez terrible pour une victoire en 2-7, mais c'est aussi un peu la magie des finals. Puisque, bah ouais, pour Kim Ga-eun, elle perd en 3-7 contre Tae Tsui-ying, puis contre Toon Young. Donc c'est dur, surtout contre Toon Young, parce que à ce moment-là, Toon Young est éliminé, et elle, Kim Ga-eun, a encore une chance de se qualifier. Donc voilà. Et Han Se-young, du coup, restons sur elle, qui derrière a battu Toon Young en 2-7, 14-16, puis Tae Tsui-ying 17-15, également en 2-7. Et c'est là, finalement, qu'elle est allée chercher sa qualif, puisqu'elle a plus lâché de 7 sur ces deux matchs, mais on aura le temps d'en reparler. Parlons peut-être d'abord de Tae Tsui-ying, qui a gagné, du coup, qui a perdu contre Han Se-young, mais qui a battu Kim Ga-eun en 3-7 et Toon Young en 2-7. On va également reparler de Tae Tsui-ying, donc je pense qu'on peut ne pas s'attarder. De l'autre côté, ça a été plus décidé rapidement. Un match entre compatriotes aussi dès le début, mais Chen Yufei ne s'est pas manqué contre Han Yue, même si elle perd le premier set derrière. Elle fait la classique Chen Yufei, surtout contre les Chinoises. Elle lui met un bon 21-9 au troisième pour la faire regretter d'avoir pris un set. Ensuite, elle bat Zhang Beiwen en 2-7, pendant que Carolina Marin battait également Zhang Beiwen, puis Han Yue en 2-7. Du coup, là, il y avait explication de texte pour savoir laquelle allait sortir première de cette poule, et c'est Marin qui gagne ce match 25-23, 24-22. Et Benoît, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ce match, parce que déjà, c'était un excellent, excellent match, avec notamment une excellente Marin contre une joueuse qui ne lui réussit pas du tout, puisqu'elle avait perdu... Elle avait perdu les 5 derniers.
Les 5 derniers.
7.
Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Et dont une au Japon, de mémoire, qui n'était pas une défaite, mais une giga claque il y a à peine un mois, je crois. Enfin, elle avait pris 12-9. Ouais, donc. Énorme surprise. Alors, enfin, énorme. Non. Énorme surprise de la voir capable de tenir 2-7 à ce niveau-là face à une joueuse qui ne lui réussit pas. Mais le niveau produit par Carolina Marin, oh là 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 là, c'était franchement quelque chose. Enfin, je me suis revu plonger 4 ans en arrière. Et honnêtement, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus parce que elle ratait rien. Elle était hyper offensive. Même physiquement, même dans son déplacement, c'était vraiment impressionnant ce qu'a produit Marine pendant 2 sets, quoi.
Moi, c'est surtout physiquement qu'elle m'impressionne. Genre, j'ai l'impression que c'était quand même une saison qui était assez longue, surtout pour elle, qui a beaucoup joué. Bah, comme on l'a dit la dernière fois, justement, quand elle s'était fait sortir au Japon, justement, on se disait, bah tiens, elle a beaucoup joué, maintenant, ça va être le temps de se reposer et tout. Mais il restait les finals. C'est là, physiquement, elle était en avance sur tous les volants. Et c'est contre Chen Yufei, je pense que ça joue beaucoup. Et quand elle est aussi bien physiquement, souvent la technique suit de son côté. Et ouais, j'ai trouvé ça assez incroyable qu'elle la batte, surtout comme ça, avec un scénario un peu fou aussi, parce qu'elle a de l'avance dans le premier, mais finalement elle se fait rattraper, elle doit sauver un volant, elle doit sauver deux volants de 7. Ouais. Et dans le deuxième, il lui faut deux volants de 7 pour conclure. Mais franchement, match assez incroyable. Ouais. Les demi-finales ensuite, alors je ne l'ai pas rappelé puisque ça n'a pas été le cas en simple homme, mais sur les finals, vous pouvez retomber contre l'adversaire que vous avez joué en poule, puisque pour éviter en fait un peu les trucages de match. Est-ce que cette règle est pourrie? Oui, mais bon, c'est pas grave. Restons du coup, bah, puisque du coup, moi qui suis fan de Carolina Marin, ça m'arrangeait pas vraiment, puisque du coup, je me suis dit, bah, trop bien, elle sort premier, comme ça elle va jouer Tight Swing, ce qui est beaucoup mieux pour elle que de jouer Han Se-young, par exemple. Et après, je me suis rappelé qu'elle pouvait jouer Chen Yufei, et je me suis dit, elle l'a battue une fois, elle la rebattra jamais 2 jours d'affilée. Et ben, pourtant, j'ai été médisant, puisqu'elle l'a fait. Victoire de Carolina Marin, 21-17, 19-21, 21-13. Benoît, un peu le... Pendant 2 sets, à peu près le... Enfin, pendant surtout 1 set et demi, à peu près le même match que la veille, sauf que Chen Yufei, elle a fini par se réveiller, Carolina Marin a un peu baissé le pied, et finalement, elle a dû attendre le 3e pour faire la diff, mais là, pour le coup, elle a vraiment fait une grosse diff avec une chinoise qui a, je pense, tout donné pour ce 2e set et qui avait plus rien en réserve.
Ouais, alors ben moi j'irais même plus loin que toi. Pour moi, c'était encore mieux que ce match de poule. Pour moi, c'était un des matchs de l'année auquel on a assisté là, en simple dame, honnêtement. C'est pas le seul. Contrairement au simple homme, la partie finale a été un peu plus intéressante. Vous allez vite le voir.
Oui, c'est clair. Mais, il y a quasiment des matchs de l'année à chaque match.
Ben, j'allais dire, les 2 demi-finales plus la finale sont probablement le top 3 des matchs de l'année de ce tableau, ou pas loin. Mais ouais, on a assisté à un des matchs de l'année, je trouve, encore plus que ce match de poule, parce que 1h44 d'un banger absolu. Vraiment, autant Chen Yufei et Carolina Marin, elles avaient eu une poule où tu pouvais te dire oui, ok, elles ont fait un gros match toutes les deux, mais bon, physiquement, t'avais joué Zhang Beiwen et Han Yue sans leur faire offense. C'est pas ce qui se fait de mieux sur la planète bad. Là, elles s'étaient déjà jouées, donc un énorme gros match. Là, c'était une demi-finale. Elles ont reproduit ça. Et le niveau de Carolina Marin dans ce 3e set, elle a jamais levé le pied. Là où Chen Yufei a craqué, Carolina Marin, pour moi, du premier au dernier point, elle a été au même niveau. Et c'était. Ouais, franchement, je vous conseille juste d'aller vous faire 1h44 de ce match, parce que c'était vraiment une folie.
Ouais, je suis totalement d'accord. Et folie, il y a eu également dans l'autre match, hein, puisque du coup, forcément, oui, elle se rejouait. Et là où Han Se-young avait, on va dire, terminé l'affaire assez vite en poule, là, elle n'a pas réussi puisqu'elle a perdu 19-21, 21-15, 22-20. Benoît, c'est surtout ce... Enfin, en fait, on peut pas parler de ce match sans parler du scénario complètement fou où, a priori, Han Se-young se dirigeait vers une victoire plutôt, on va dire, tranquille dans le 3e après avoir totalement craqué au milieu du 2e puisqu'elle menait 19-10, puis 20-16. Normalement, 4 volants de match pour une joueuse comme elle, ça suffit. Et là, enfin, la faillite, elle a... pour moi, pas vraiment été mentale, puisqu'elle perd ce 7-22-20, ouais, et donc le match. Pour moi, c'est physiquement, elle a totalement lâché l'affaire. Le mental a, j'imagine, joué aussi, et celui de Tight Swing, qui n'a rien lâché alors qu'elle avait 8 points de retard, même plus que ça, a joué. Mais là, j'ai vraiment l'impression que son corps l'a lâché au pire des moments, Han Se-young.
Ouais, c'est le cas. En fait, ce qui est difficile à expliquer... c'est qu'il y a eu ça, mais j'ai l'impression qu'il a pas craqué comme il a pu craquer début 2023 face à Yamaguchi, où vraiment elle était à l'agonie. Alors là, on a senti quand même, hein, qu'elle baissait, mais et en face, Tight Swing ne ratait plus rien, trouvait des angles de malade. Il y a eu les deux en fait qui se sont alignés et ça devenait injouable pour Han Se-young. Mais en fait, c'est bizarre que ce soit arrivé à ce moment-là, dans un moment où tout le monde avait éteint sa télé, tu vois, presque pour caricaturer. Mmh. Mais en fait, c'est assez inexplicable parce qu'une a retrouvé de sa superbe et l'autre a un peu explosé. Et les deux combinés, ça a fait ce scénario de malade. Et en vrai, si on juge sur l'ensemble du match, on a aussi eu un match de top niveau chez les filles. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'était quand même ouf.
Ah oui, le niveau était assez fou. Ouais, ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé aussi. Tiens, en parlant de choses que j'ai moins aimées, on va passer sur la finale. Tai Tsui contre Carolina Marin. Je sais pas si je vais dire le classique du simple dame, mais on en a eu beaucoup à travers les années. Carolina Marin qui gagne le premier 21-12 et qui mène, je crois, 11-9. À la pause du deuxième. Alors, même si... En fait, il y a eu deux matchs, donc je suis un peu obligé de le découper en deux.
Ouais.
Carolina Marin, qui pour moi, sur ce premier set, reste sur sa forme de la veille et de l'avant-veille, donc c'est-à-dire la meilleure joueuse de la semaine, je trouve, et la meilleure Carolina Marin de l'année, je pense aussi.
Mm-hmm.
Sur le deuxième set, Tai Tsui-ying a beaucoup plus de répondants, mais Marin reste devant et... Je pense de mon côté que ça va le faire. Et là, craquage. Alors là, pour le coup, Benoît, je vais avoir besoin de toi parce que pour moi, c'est incompréhensible ce qui s'est passé. Elle a fait n'importe quoi sur cette deuxième partie de set. Et le troisième a été serré, mais Tai Tsui-ying a fait la différence en fin de set. Mmh. Enfin, en milieu de set, on va dire, puisque en fin de set, elle a galéré à conclure. Il lui a fallu plusieurs volants de match, mais elle a finalement réussi à le faire. Benoît, là, match, le niveau était aussi assez élevé, je trouve, mais complètement fou à quel point ce deuxième set a échappé à Carolina Marin, qui a du coup pris, qui a mis 3 points sur la deuxième partie du set. C'est assez terrible.
Ouais, en fait, ce qui est fou, c'est que c'est pas tant que ça lui ait échappé parce que c'était possible, mais c'est la manière. Le nombre de fautes directes non provoquées. Enfin, c'était très très surprenant qu'elle explose comme ça après une semaine pareille. En fait, je saurais même pas dire si c'est devenu physique, mais j'imagine que forcément en partie. Mais quand tu vois son troisième set, t'as tendance à te dire je suis pas si sûr finalement, parce qu'au troisième set, les deux ont produit un bad de top niveau mondial. Vraiment, c'était un putain de troisième set, vraiment. Enfin, je trouve que les deux étaient au top. Tai Tsui-ying, presque retrouvée sur ce troisième set. Moi, je l'ai trouvée en mode 2019 où elle était capable de ça, quoi. Elle a quasiment plus rien raté. Marin non plus dans le troisième, mais il y a quand même eu encore un peu de déchets, mais là, plutôt provoqué, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que dans ce deuxième set, je sais pas si elle l'a perdu là, mais en tout cas, c'était difficilement explicable de comprendre pourquoi.
Elle s'est beaucoup trop pressée. Est-ce qu'elle a eu peur de pas avoir les jambes pour tenir? Je sais
ouais,
pas, parce
peut-être.
Que je trouve qu'elle s'est beaucoup trop pressée, alors que quand elle prenait plus son temps, ça allait beaucoup mieux. Benoît, est-ce que... J'ai une question pour toi. Mm-hmm. Est-ce que je suis un homme rempli de somme si je dis que Carolina Marin était quand même la meilleure joueuse de la semaine ou pas?
Non, je pense pas. Je pense pas, mais elle mérite pas de gagner cette finale. C'est un triste constat, je trouve. Mais je pense que t'as raison sur le fait que c'était la meilleure joueuse de la semaine. Mais cette finale, elle a pas fait le nécessaire pour la gagner. Sur ce troisième set, elle est dominée.
Ouais, pour le troisième set, je suis d'accord. En fait, c'est plus que normalement ce match, il doit jamais aller au troisième set, je pense. C'était la question Marine. Mais la question Tai Tsui-ying, Benoît, c'est très étonnant de voir Tai Tsui-ying gagner deux matchs, une demi et une finale. Pure mentale, alors que même quand elle dominait le circuit, la force mentale, même ouais. si elle en a, hein, je dis pas le contraire, mais ça a jamais été sa qualité première.
Jamais, ouais.
Elle a moins les jambes qu'avant, mais là elle va chercher des matchs uniquement avec la tête. Et pour une Tai Tsui-ying qui, on le sait, est de moins en moins, je pense, passionnée par le bad et qui va pas faire carrière encore des années, ça fait plaisir de la voir aller chercher des matchs et un titre comme ça.
Bah carrément, même dans l'attitude, dans ce troisième set, elle a serré le point dès le départ. Ça fait combien de mois qu'on l'a pas vu faire ça? ouais, c'est surprenant qu'elle aille chercher des matchs au mental. Même moi, en voyant ça, j'étais là, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que le niveau de jeu produit par Tight Swing sur la demi et la finale, il n'y a pas débat, c'est du top Tight Swing ou pas loin. Ce qui est incompréhensible, c'est la différence entre les poules et les phases finales. Et effectivement, qu'elle aille chercher des matchs au mental, c'est assez surprenant, surtout que les finals... C'était sa 10e apparition, c'est son 4e titre, c'est monstrueux, elle a plus grand chose à prouver, tu vois, donc ouais, je suis comme toi, je suis là en mode, ok, elle avait l'air de vraiment prendre du plaisir, donc rien que pour ça, je suis content, mais c'est vrai que c'est presque sorti de nulle part.
Ouais, c'est clair, surtout sorti de nulle part, ouais, je suis d'accord avec toi, pas forcément le fait qu'elle gagne, mais le fait qu'elle gagne comme ça,
ouais, c'est ça,
c'est très très étonnant pour elle. Allez, on passe au troisième tableau, le double homme.
Aimez-vous le badminton? Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne.
Alors là, pareil, bon, les doubles, on va encore un peu accélérer sur les poules. Le double homme, il y a eu des matchs sympas, notamment dans la poule A. On a eu des gros matchs, notamment Oki Kobayashi qui bat Chiasso 21-18 au troisième. Chiasso, ils sont allés au troisième tout le temps, ils ont tout le temps perdu. 22-20 défaite au troisième contre Liu Hu, puis 21-12 contre Liang Wang alors qu'ils avaient pris le premier. Liu Hu qui ont fait une super phase de poule puisqu'ils ont gagné aussi contre Liang Wang, leur compatriote, 21-16 au troisième. Et ils ont battu Oki Kobayashi facilement 21-12, 21-17. Et le match un peu décisif, c'est Liang Wang qui l'ont gagné en 2-7 contre Oki Kobayashi. Du coup, le classement, ça fait Liu Hu en 1, Liang Wang en 2, donc les deux paires chinoises qui se qualifient. Oki Kobayashi en 3, Chiasso en 4. Benoît, un niveau assez resserré, qu'est-ce que tu as à dire sur cette poule?
Niveau assez resserré, logique. Au vu de la saison, de la fin de saison pour Liu Hu qui revient à un bon niveau.
J'allais dire fin de saison, ouais.
Ouais. Liang Wang, niveau général. Et en fait, je suis déçu, mais que peu surpris de la performance de Chiasso. Je serais curieux d'avoir ton avis. Je suis déçu parce que. Bah, ils sont quand même là et ils sont à leur place. Mais je comprends pas comment tu peux ne pas gagner un match en venant aux finals. Parfois le niveau de jeu sur les 3e sets t'es là mais j'arrive pas à capter. C'est même pas qu'ils se liquéfient parce que là il y a rien à perdre, que tu sois 4e, 3e ou 2e, tu vas pas gagner le tournoi. Enfin je veux dire derrière il va falloir gagner des matchs encore. C'est juste très décevant dans ce qu'ils ont proposé sur les 3e sets. Je dirais même pas qu'ils sont pas concernés, mais juste pas au niveau de ces finals, moi j'ai trouvé.
Non, moi aussi, en fait, ils ont un truc, Chiasso, c'est que... Enfin ouais, c'est pas qu'ils sont pas dedans, mais des fois t'as l'impression qu'ils arrivent pas vraiment à se battre, t'as l'impression qu'ils en veulent un peu moins, je sais pas, et... Alors que là, pourtant, par moment, le niveau de jeu, il a été bon, je trouve, de leur part, sur cette semaine, mais c'est clair que c'est pas suffisant, et en fait... Les matchs qu'ils arrivent à gagner en jouant comme ça le reste de l'année, bah là tu prends forcément des paires top 10, donc ça passe plus. Et c'est aussi pour ça qu'ils perdent tout le temps en demi ou en quart, c'est que dès que le niveau s'élève, ils sont pas dominés, mais par contre ils arrivent pas à gagner.
Bah ils sont à leur place en étant aux finals et en gagnant pas un match.
Ouais, c'est ça, mais c'est triste quand même cette incapacité d'être un peu clutch, c'est étrange. Dans le deuxième groupe. Petite surprise dès le début, pour le coup, même grosse surprise, on peut peut-être s'attarder sur ce match, Benoît. On sait que Astrup Rasmussen sont bons en ce moment. Ils avaient perdu contre Kang Seo en finale des championnats du monde, et ben cette fois ils vont les chercher 21-10, 15-21, 24-22. Un bon match de double homme comme on aime, avec beaucoup de tension sur le terrain, alors que c'était un des premiers matchs de la semaine. Mais c'était sympa, et Astrup Rasmussen, ben, ils ont montré direct qu'ils étaient sur leur lancée déjà et qu'ils n'étaient pas venus pour rigoler.
Ouais, ils ont vraiment été très très bons. C'était un des meilleurs matchs, je pense, de ce tableau de la semaine. Ce troisième set surtout, ils s'en sortent presque bien parce que parfois ils ont beaucoup beaucoup défendu un peu ce qu'on leur a parfois reproché parce que c'était pas la bonne strat. Mais là, ils étaient vraiment acculés, mais ils étaient tellement fort en défense, et enfin vraiment, et mentalement c'est là où ils ont l'air d'avoir progressé ces derniers mois. Ça fait la diff très clairement sur la fin de set, mais ouais, enfin un vrai match et une demi surprise, mais une surprise quand même, parce que quand CO, souvent ils sont fatigués sur les fins de semaine parce que CO accumule des matchs, là c'était pas le cas.
Derrière la paire un peu invitée surprise de ce tableau, c'était Fikri Molana. Et bah on l'a bien vu, hein, ils ont pris 14 et 19 contre Alfian Ardianto, 9 et 12 contre Kang Seo, puis 17 et 6 contre Astrup Rasmussen. Donc on a bien vu qu'ils étaient largement en dessous. Je pense que ceux qui peuvent s'en vouloir, c'est Ranker et Dichetti par exemple, de même pas être là, alors que quand tu vois que Fikri Molana ils sont, vu ce qu'ils font, tu te dis que t'aurais peut-être dû être à leur place par exemple. Alfian Ardianto, eux qui s'étaient qualifiés alors qu'ils font une saison un peu moisie, ils sortent premiers de ce groupe puisque bah, du coup ils ont battu, ils ont perdu contre Kang Seo en 3-7, mais ils ont surtout battu Astrup Rasmussen en 2-7. Donc si vous avez fait les petits calculs, malheureusement donc il y a trois paires qui se retrouvent avec deux victoires une défaite, et au 7 average c'est Alfian Ardianto premier, Kang Seo deuxième et Astrup Rasmussen troisième. Voilà, je pense que Benoît, Astrup Rasmussen, ils peuvent s'en vouloir cette défaite 12 et 18 contre Alfian Ardianto, contre une paire où d'habitude ils sont si forts. Voilà, je pense que grosse déception de ne pas les voir en demi, surtout après cette victoire face au champion du monde d'entrée.
Ouais, bah c'est exactement mon constat pour moi, c'est que au vu de leur match contre Alfian Ardianto, qui a une énorme déception et ils ont été vraiment à côté de la plaque, voire même médiocre par rapport à ce qu'ils proposent en tout cas en ce moment, tu mérites pas de sortir en fait. Tu peux pas venir aux finals et comme ça. Je vais pas dire ne pas jouer parce que c'est pas le cas, mais tu peux pas te permettre de passer à côté de match. T'en as trois, tu sais que ça va être hyper serré et ben clairement ils se sont tués tout seuls, moi je trouve.
Ouais, moi aussi, c'est très très surprenant, et malheureusement pour eux la victoire en deux du coup après contre Fikri Molana n'aura pas servi. Et Benoît, peut-être un petit mot d'Alfian Ardianto quand même, que moi je voyais pas spécialement passer dans cette poule, et finalement ils sortent premiers.
Ouais, moi non plus, je les voyais pas passer. J'ai du mal à jauger leur niveau, honnêtement. Je les ai pas trouvés vraiment fous cette semaine. Mais ils sortent premiers. Enfin, c'est encore une fois la joie des finals. Et eux, pour le coup, contrairement à certains que j'ai trouvé vraiment très bons, eux, j'ai l'impression qu'ils sont passés un peu par un trou de souris, quoi. Enfin, ils m'ont pas fait une impression de ouf.
Non, moi non plus. C'est limite, tu te demandes un peu comment ils ont fait pour sortir premier de ce groupe, même en ayant vu les matchs.
Je comprends pas trop. Ouais, ouais.
Sur leur demi, pas eu de miracle pour le coup. Ils perdent 22-20 le premier contre Liang Wang. Là, les poules ont croisé au tirage au sort. Ils gagnent le deuxième 21-12 et ils se sont tapés 21-16 au dernier. Tandis que de l'autre côté, il n'y a pas eu de match Kang Seo qui ont étrié Liu Hu alors qu'ils étaient pourtant en forme. Les Chinois 21-13, 21-12. Je sais pas si t'as un mot à dire sur une de ces deux demi ou les deux.
Pareil, encore une fois, Alfian Ardianto, ils sont pas si loin parce que ils font pas un mauvais match, mais j'ai l'impression qu'ils sont genre vraiment en dessous sur l'ensemble du match, que Liang Wang sont vraiment dominateurs tout le temps en attaque, que c'est vraiment eux qui font ce qu'ils veulent, et pourtant ils sont pas si loin. Et pour la demi-finale, Kang Seo était trop fort.
Et victoire de Kang Seo contre Liang Wang en finale, 21-17, 22-20. Là encore, je trouvais très beau match de double homme. J'ai trouvé franchement, on s'est vraiment régalé. Les Chinois étaient menés, ils reviennent et finalement après ils prennent eux-mêmes une série de 6 points puisqu'ils menaient donc 20-16 et ils perdent 22-20. Là pour le coup, Benoît, assez incompréhensible. Enfin, c'est pas incompréhensible, mais ce match il méritait. Ça semblait logique qu'il aille en 3ème et là ils passent un peu à côté de leur fin de match, les Chinois, et ça leur coûte cher.
Ouais, exactement. Et dans le même temps, Kang Seo, tu sens qu'ils sont sur une confiance ultime, les types. Enfin, je sais pas. Ils ont été excellents, hein, vraiment, hein, tout le match. Il n'y a pas de débat, mais ça aurait dû aller au troisième. Et pourtant, ça y va pas. Et c'est pas que la faute de Liang Wang. Tu sens qu'ils sont sur une saison de ouf. Ils sont champions du monde. Ils vont gagner les finals. Ouais, c'est la saison de Kang Seo, c'est quand même quelque chose.
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est marrant de voir que en simple homme, Axelsen, il perd un match et finalement il va le chercher. En simple dame, Tai Suying, elle perd un match, elle va le chercher. Là aussi, c'est marrant que les finals, c'est vraiment un format à part où c'est quasiment impossible d'être au top du top pendant 5 jours d'affilée, en fait, tellement il y a de, bah ouais, de l'adversité en face. Mais je suis d'accord, Kang Seo, ils m'ont moins impressionné cette semaine que quand ils ont été champions du monde, mais ça reste ultra, ultra costaud. Allez, on passe au quatrième tableau, le double dame.
Look at this, look at that.
Alors, le double dame, dans cette première poule, alors... malheureusement, il y a une blessure dans le match Liu Tan Matsumoto Nagahara, donc c'est un peu tout mélangé du coup, puisque du coup Chen Jia n'ont pas eu à jouer contre Matsumoto Nagahara. J'ai envie de dire Chen Jia, c'est pas immérité, puisque elles avaient déjà battu Liu Tan 14-17 et Matsumoto et Ryu Ramadanti 10-14. Donc elles ont un peu roulé sur la compétition. La question, c'était plus qui allait les accompagner en demi. Donc pas Matsumoto Nagahara puisqu'elles se sont blessées. Mais dans le match décisif, Liu Tan ont étrié Ryu Ramadanti 13-8 dans le remake de la finale des IFB, si je me trompe pas. Mais là, il n'y a pas eu match. Donc voilà, Benoît, mon constat, c'est les Chinois beaucoup trop fortes pour tout le monde dans cette poule, et surtout Chen Jia encore au-dessus du lot.
Il est bien ton constat.
Ah bah merci, c'est gentil. Et du coup, j'imagine que si mon constat est tellement bien que t'as rien à ajouter. Et
c'est exactement ça.
Et bah du coup, on va passer à la poule... à la poule B, où là, pareil, il n'y a pas eu vraiment discussion. Baek Lee ont battu Kim Kong, leur compatriote coréenne, 21-11-22-20. Elles ont battu Kichitara Kul Prajongjai 15-15. Et elles ont un peu plus galéré contre Matsuyama Shida dans le match qui était le match pour la première place de la poule. Puisque Matsuyama Shida avait elle aussi fait le boulot contre Kichitara Kul Prajongjai 15-10 et contre Kim Kong 13-14. Et dans le match qui comptait pas, c'est Kim Kong qui ont gagné. Benoît, la surprise de cette poule, c'est plutôt le niveau décevant de Kim et Kong, je trouve, qui avait, je trouve, largement sur le papier la place de se qualifier. Baek Lee et Matsuyama Shida, c'est pas mal, mais voilà, pour moi, c'est un peu la surprise de cette poule, c'est le niveau de cette paire coréenne.
Bah, c'est intéressant que tu dises ça, parce que, alors, il y avait la place, ça on est d'accord, Kichitara Kul Prajongjai était un ton en dessous, mais entre les trois autres, ça, il y avait débat. Mais en fait, moi je trouve
pas
que tout le monde.
Pas comme ça, en tout cas.
Non, ça c'est sûr. Mais je trouve que tout le monde est plus ou moins à sa place, finalement, sur la saison. Kim Kong, en vrai, c'est pas non plus incroyable. Elles sont derrière Baek Lee au ranking, mais devant Matsuyama Shida. Mais Matsuyama Shida, moi je les trouve plus constantes, en tout cas en termes de performance. Et je suis déçu de Kim Kong, mais pas spécialement surpris qu'elle ne sorte pas.
Ouais, bah moi, Kim Kong, je restais plus sur ce qu'elles ont montré au All England ou au Japon. Ou tu vois, je me suis dit, face à une grosse opposition sur 5 jours, ça peut le faire, tu vois.
Elles sont capables d'aller en chercher 5, hein.
Bah, elles sont capables de battre tout le monde. Là, elles ont été capables d'en chercher un seul. Et en plus, quand elles ont perdu, elles ont pas fait semblant. Hein. Franchement, c'est niveau très décevant. Du coup, en demi, on a eu un remake de ces matchs-là. Baek Lee ont encore battu Matsuyama Shida, 21-17, 18-21, 21-18, pendant que Chen Jia ont encore très facilement battu leur compatriote Liu Tan, 21-12, 21-15. Et je vais direct parler de la finale, après tu me diras ce que t'en penses. Chen Jia qui ont battu Baek Lee 21-16, 21-16. Là, pareil que je sais plus de quel match je parlais au début d'épisode. Début de match très très prometteur où on se dit « Ah là, on peut vraiment partir sur un banger ». Mais sauf qu'en face, il y a Chen Jia. Il y a de très loin la meilleure paire du monde de double dame. Et bah, ce titre, il était pour elle et pour personne d'autre.
Ouais, c'est juste trop facile. Non, en vrai, elles sont juste trop fortes et je sais qu'on en a récemment parlé, mais c'est ça qu'on attend d'elles et c'est ça aussi que cette année, elles ont, moi je trouve, beaucoup mieux réussi, même si leur saison 2022 était pas mauvaise, hein, très loin de là. Mais cette année, je trouve vraiment qu'elles ont vraiment assis cette domination et je trouve qu'il n'y a plus aucun débat, vraiment plus le moindre débat, de savoir si Chen Jia, en vrai, est-ce qu'elles sont les meilleures. Oui, elles sont les meilleures. Elles l'ont montré toute la saison jusqu'aux finals. Et moi, c'est vraiment ça que... Enfin, je trouve que c'est vraiment la saison qu'on attendait d'elles.
Ouais, moi aussi. Mais Benoît, est-ce que sur ce match précisément, en début de match, t'as pas senti que les Coréennes pouvaient faire quelque chose qui finalement n'est jamais arrivé?
Peut-être un peu, mais je pressent quand même une baisse physique. La veille, il y avait eu un match de 2 heures hein, quand même.
Oui, c'est ça. Elles ont fini avec des crampes, les deux coréennes.
Le visage de Lee So-hee, j'étais pas hyper rassuré sur le fait qu'elle aille au bout du match. Hein, donc, je pense
non, en vrai. Qu'elle rejoue le lendemain, c'était pas sûr.
Bah, puis tu rejoues Chenjia. Donc en vrai.
En plus.
Enfin, pour moi, c'est. Mais après, bon, voilà, c'est parce que Chenjia ont mieux géré leur semaine, ont été meilleurs. Enfin, tu vois, voilà. C'est pas la faute de Chenjia, mais tu peux pas arriver en ayant eu des crampes la veille et jouer Chenjia et essayer de les battre. T'as peu de chance.
Quatrième titre dans ce tableau. Le premier, ça remonte déjà à 2016. Hein, Chenjia.
Ouais.
Ça en
Chenjia, fait 6, non de,
Pour en Chen, tout. Ça en fait 6.
Ouais, c'est ça, ouais.
Pour Chen, elle en a 6 en tout parce qu'elle en a chopé 2 en mix. Mais sinon, voilà, en tant que paire de double dame, 2016, 2019, 2022, 2023.
C'est ouf.
Ouais, c'est complètement ouf. Et surtout, en fait, c'est un peu comme Axelsen, quoi. C'est des titres qui viennent vraiment récompenser une saison dominée quasiment de bout en bout. Donc c'est vraiment impressionnant ce qu'elles font en double dame, Chen et Jia. Dernier tableau, le double mixte.
Oh my goodness!
Alors le double mix, il s'est passé pas mal de choses. On va commencer par cette poule A avec les idoles de Benoît Chento. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais Chen a commencé avec un titre puisque avant le World of Finals, il y a toujours le fameux gala où tout le monde. Benoît, faut en parler. Oh.
Oui, il faut en parler.
Il y a toujours le petit gala avec ils viennent tous sur leur 31, tout le monde est beau et c'est là qu'il y a le tirage au sort notamment. Mais il y a surtout l'élection du meilleur costume pour les hommes et pour les femmes. Et pour les femmes, c'est Kitita Cool qui a gagné, me semble-t-il, ou Prajong Jai, je sais plus une des deux, excusez-moi, je sais plus. Mais surtout, c'est le gagnant qui m'intéresse puisque c'est Chen Tangjie qui, du coup, ajoute un titre à son palmarès. Et Benoît, je crois que tu voulais absolument réagir à ça.
Oui, c'est vrai que je suis pas convaincu que j'aurais voté pour lui, mais c'est. Après, rien que pour la coupe de cheveux, déjà, pas. Enfin. Par obligation, j'aurais pas pu voter pour lui. Le costume, bon voilà, c'est digne des plus beaux costumes qu'on peut voir chaque année à la draft NBA. Si vous regardez, on voit des pures folies. Voilà, Chen, il a du goût, le monsieur.
Voilà, allez voir sur les réseaux et sur le site de la BWF, il y a les photos. c'est toujours marrant de voir les joueurs et joueuses habillés différemment. Des fois, c'est un peu moins marrant aussi. mais voilà, revenons au terrain. Chento, du coup, là, qui avait plus un costume, mais un short, et il a quand même pris 10-13 contre Feng Wang en tame compliquée. Mais c'est la surprise quand même, c'est Chento qui, du coup, dès le deuxième match, qui va taper Watanabe Higashino, alors que pourtant Watanabe Higashino avait battu Puavara Nukro et Taira Tanachai 16-14, donc assez facilement. On s'est dit, tiens, les Japonais sont bien, et bah finalement, ils sont pas si bien puisqu'ils ont perdu contre Chento. Puis contre Feng Wang, les deux en 3-7, hein, ça s'est joué à pas toujours grand-chose, mais ils les perdent quand même tous les deux. Qu'est-ce que t'as pensé, avant que je fasse le reste de la poule, Benoît, de cette perf des Japonais, de ces deux perfs du coup?
C'est malheureusement assez constant avec ce qu'on a vu et assez cohérent hein, cette fin de saison, même cette saison de manière générale. Une paire Watanabe Higashino pas du tout au niveau de la saison précédente, pas du tout à son meilleur niveau, quasiment jamais ou en tout cas très rarement sur ses finals, ça a été le cas aussi. Franchement, de manière générale, une poule bien éclatée sa mère malgré des gros noms.
Ouais, j'aime beaucoup ta manière de le dire parce que pour avoir un Okro Taira Tanachai, ils sont pas non plus au niveau.
Ah, ouais, c'est poli de le dire hein, comme ça, hein, je trouve. C'est eux, c'est pire
ouais,
encore.
C'est
hein.
Ça. Ils perdent en 3-7 contre Feng Wang, ils gagnent en 3-7 contre Chento, mais c'est trop tard. Feng Wang, eux, pour le coup, ont été plutôt solides à défaut d'être brillants, disons. Mais ce qui est assez incroyable du coup, c'est que là où dans d'autres tableaux certains joueurs et joueuses avec deux victoires sont pas sortis, et ben Watanabe Higashino, ils arrivent à ce qualif en gagnant qu'un seul du coup, puisque ça a suffi, cette victoire contre Puavero Nukro Taira Tanachai au 7
miracle.
Ils se qualifient deuxième derrière les Chinois et c'est effectivement un miracle. De l'autre côté, niveau un peu plus élevé, et des gros matchs aussi. On a d'abord eu un match entre Coréens, puisque Kim Jae-yong était qualifié, mais ils ont perdu dès le premier tour contre Seo et Shae. Seo et Shae qui ont ensuite battu Tang Tse. De l'autre côté, Zeng et Wang ont aussi battu Tang Tse en 2-7, puis Kim Jae-yong en 3-7. Là, c'était vraiment un gros match. Notamment, ils ont dû aller chercher 27-25 le deuxième set alors qu'ils avaient perdu le premier. Et pour le match de la première place, c'est Zeng Wang qui ont battu Seo Shae 21-15, 25-23. Là aussi, ils ont dû aller chercher le deuxième. Tandis que Tang Tse battait Kim Jae-yong pour le match qui, entre guillemets, compte pour du beurre. Là, Benoît, dans cette poule, on a vu des vrais gros matchs aussi. Hein. Il y en a eu un peu dans le... Il y a eu aussi des gros matchs dans l'autre poule, mais là, j'ai trouvé le niveau un peu plus élevé, notamment de la part des deux paires qui sont qualifiés.
J'aime ta façon de le dire poliment, Ewan. Dans cette poule, il y avait 4 des 5 meilleures paires des finals.
Oui, c'est vrai. Alors que, pourtant, Kim Jae-yong, pas forcément ouf dernièrement, et Tang Tse, ouf dernièrement, mais sur la saison, pas incroyable.
Ouais, totalement d'accord, mais sur le niveau produit sur ces finals, la seule paire qui est meilleure peut-être que deux ou trois des paires de cette poule, c'est Feng Wang. Les trois autres, on n'a pas parlé de Tom et Delphine, mais... Le niveau produit par certains, t'as des regrets, même dans cette poule, quand t'es Tang Tse, tu te dis que dans l'autre, tu serais probablement sorti, parce que en vrai, ce qu'ils ont produit, même contre Zeng Wang, et surtout contre Seo Shae, c'était bien au-dessus de ce que d'autres ont produit dans l'autre poule. Alors bon, ça c'est le jeu des tirages, mais le niveau de cette poule, c'était ce qu'on attend des finals, très clairement. On s'est régalé quasi sur tous les matchs, même sur tous, à part le match peut-être le premier entre Coréens. Mais de manière générale, ouais, un niveau 2-3 crans au-dessus de l'autre poule.
Ouais, c'est vrai que c'était sympa. La surprise du coup, Benoît, si on peut le dire comme ça, c'est que le lendemain, Seo Shae, ils n'ont pas fait le même genre de match. Hein. Ils ont pris 21-12, 21-5 contre Zeng Wang. Ce match, pour vous dire, je ne l'ai même pas fini, tellement j'en avais marre de voir ce massacre. Et je crois que quand je suis parti, je ne sais plus, ça faisait genre 15-5. Et quand j'ai regardé le score plus tard, j'ai vu que j'avais raté aucun point des Coréens, en fait.
C'est terrible.
Alors, Seo, on sait qu'il a du mal à finir les semaines parce qu'il joue comme un taré dans deux tableaux. Mais là, quand même, t'as l'impression que c'était pas la même paire que la veille, quoi.
Ouais, après, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques semaines, ce qui s'est passé en finale des China Masters, c'était pas pareil parce qu'il y a eu 10 et 11, ils avaient mis plus de points. Mais, en vrai, on s'est arrêté aussi sur le fait qu'ils les ont battus deux fois cette année aux mondiaux et c'est pas volé, hein. Et en quart ou en demi, je sais plus, du China Open, mais ça doit faire du 14-2, tu vois. Donc, il y a quand même une nette domination. Alors, c'est Oshae, ils ont fait une saison de porc et cette année, ils ont réussi à les battre. Mais le niveau affiché par Zeng Wang dans cette demi, ces Zeng Wang-là, même à ton top niveau, tu regardes, quoi.
En fait, je suis totalement d'accord avec toi ce que tu as dit et c'est très très important, je trouve. On a vraiment l'impression que Seo Shae peuvent les taper tout le temps parce que ils les ont battus en finale des mondiaux et que c'est marquant et qu'il y a eu quelques matchs de ouf entre les deux. Mais la réalité, elle est totalement là. La réalité, c'est que ça fait 15-2 aux confrontations. Et ouais, c'est dingue quand même. Et bon, on reviendra évidemment la semaine prochaine sur le bilan, tout ça, mais ils ont vraiment perdu le match qu'il ne fallait pas perdre en finale des mondiaux, alors qu'ils sont largement meilleurs que les Coréens.
Bien sûr, bien sûr.
Mais même, pour le coup, même quand les Coréens gagnent, ils ont su nous faire des matchs un peu fous, comme celui de la veille, justement. Mais en tout cas, en demi, là, il n'y a rien eu du tout. L'autre a été beaucoup plus serré, mais c'est également des Chinois qui ont gagné 21-19, 23-21. La victoire de Feng Wang contre Watanabe Higashino. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Benoît ?
C'était mieux de Watanabe Higashino. Le niveau de jeu produit était à la hauteur de l'événement, contrairement à ce qu'on a pu voir dans la semaine. Mais en fait, il leur manque aussi la confiance que t'as pas accumulée toute la saison. Dans les moments chauds, moi j'ai trouvé. Là où Watanabe faisait des coups de génie, Higashino, c'était une prison, tu vois. Il pouvait rien lui arriver. Il a manqué ça, en fait. Il a manqué ça et Feng Wang, bon, c'est pas le jeu qui te fait le plus kiffer au monde, peut-être. Mais en tout cas, Feng Wang, la confiance accumulée en 2023, très clairement, elle sert dans ce genre de moment.
Je sais pas, clair, tu... Là, pour le coup, ouais. Bah non, mais j'allais dire Feng Wang là, c'est vrai qu'ils arrivent à gagner même sans être monstrueux. Bah, c'est ça, ouais. Je trouve, et ouais, ça se voit qu'en ce moment ils sont meilleurs. Pour le coup, finale bien pourrie du mix, voilà, 21-11, 21-18, Zheng Wang contre Feng Wang. Voilà, j'ai rien à te dire pour introduire ton avis, Benoît, à part le fait que moi j'ai pas spécialement kiffé.
En fait, c'était une finale. En fait, elle a été jouée juste pour. Parce que parfois, quand on dit ça, on a tendance à penser que la finale n'est pas jouée. Zheng Ziwei, il était tellement fort. Il a fait des dingueries sur des séquences de smash et tout. Enfin, il était. Moi, je trouve que là, pour le coup, c'est.
Non, je disais, il a fait des séquences où il marchait aussi, où il jouait pas.
Ouais. Mais il y avait une. Enfin, même le niveau. Je trouve qu'il y avait un écart de niveau. Juste. Il pouvait rien faire, Feng Wang. Pour moi, il n'y avait vraiment aucune opportunité. Et 18 dans le deuxième, c'est archi cher payé. Ça aurait pu faire 12 et 5 ce match. Comme la veille.
Ouais, c'est clair. C'est. En fait, là où le. Enfin, je veux pas taper sur Feng, hein, sur Feng Yangzhe. Mais quand tu vois un match entre les deux paires, là où la grosse différence de niveau elle se fait, c'est sur les deux joueurs masculins.
Ah bah ouais.
Parce qu'autant, je pense que Wang Yakyong est meilleur que Wang Dongping, mais c'est. Leur niveau est assez kiff-kiff, mais au niveau des mecs derrière, c'est. Il y a une grosse classe d'écart, voire plusieurs, et c'est là que. Qui souffre de la comparaison, Feng. Dès que le volant il est en dessous de sa tête, c'est beaucoup plus compliqué.
Ouais, après ça marche très bien la paire, on va pas taper dessus, mais pour moi il est pas un meilleur joueur que Wang Liyu, l'ancien partenaire de Wang Dongping.
Non, moi non plus, qui lui-même avait des défauts pourtant, qui
mais
était,
bien sûr
qui avait pas le niveau de Zheng Ziwei.
Bah c'était un Zheng Ziwei un peu tout moins bien, c'était plus proche de son profil, mais c'était un meilleur joueur pour moi que Feng Yanzi. Mais voilà, après cette paire elle est. Je suis pas sûr qu'il soit numéro 2 mondial, mais en tout cas, au vu de la saison, c'est du top 3 mondial tous les jours.
Bah, c'est exactement ce que j'allais te dire. Pour moi, c'est leur objectif. S'ils arrivent à rester dans le top 3, c'est très très bien. En gros, si tu bats les Poivre Onokroter, Atanachai, Seo Shae, Watanabe et Gashino, c'est très bien. Par contre, t'auras que les miettes que te laisse Zheng Wang, quoi, c'est tout.
Bah, comme tout le monde.
Oui, plus c'est vrai, moins, comme mais... tout le monde. Exactement, non, t'as raison. Voilà. Et puis on l'a pas dit, mais Zheng Wang deuxième titre pour Zheng et Wang, mais pour le coup Zheng il en avait déjà gagné deux avec Chen en 2016-2017. Là ils en font deux d'affilée. C'est pas un tournoi qu'il a réussi spécialement en tant que troisième titre, pardon, excusez-moi.
Ouais, il a 2019,
non? 2019. Ouais. J'avais pas vu le 2019, 2022-2023. Voilà. Benoît, ça y est, on a fait le tour des tableaux en moins d'une heure. Je suis fier de nous déjà.
Ah oui, j'avais pas vu. T'as raison.
Et ouais, franchement, on est pas mal. Hein. Moi, je pensais qu'on était parti pour plus, mais il y a la semaine prochaine, on va se rattraper. qu'est-ce que tu veux dire pour conclure sur cette, encore une fois, belle semaine, j'ai trouvé.
Ouais, à froid, je dirais quand même que peut-être je me suis emballé. C'était peut-être pas les meilleurs finals que j'ai vus en intro. On aurait pu penser que si. Mais je pense quand même qu'il y a des tableaux où vraiment je me suis régalé. Si vous pouvez aller vous faire les deux demi-finales et la finale du simple dame notamment, ou même cette finale du double homme, je pense vraiment qu'il y a eu des bangers ces quatre matchs-là que je viens de vous citer notamment. C'était peut-être pas les meilleurs finals de l'année, mais honnêtement, on a vu quand même du très très haut niveau, surtout sur certains tableaux. Je sais pas ce que toi t'en as pensé.
Ouais, moi aussi, et je pense que si je devais retenir quelque chose, ce sera ce tableau de simple dame, je pense.
Ouais.
À la fois pour le craquage de Marine qui fait mal, mais aussi pour le niveau très élevé de Marine, et surtout pour les matchs complètement fous qu'on a vus, la remontada de Tai Tsuying qui sort de nulle part, le seul titre de Tai Tsuying cette année, à part le Taipei Open, je crois. Donc c'est quand même assez fou qu'elle aille chercher celui-ci. Donc voilà, le simple dame me marquera, mais beaucoup de choses quand même intéressantes à retenir. Alors notre prochain épisode, on l'a teasé, c'est le bilan de l'année. Toujours un gros épisode où on fera quoi ? On fera du coup les choses qui nous ont marqué cette année, plus nos prédictions pour l'année 2024, plus, et ça c'est le nouveau segment qui va faire plaisir, réagir à nos prédictions de l'année 2023. On essaye de vous sortir ça au plus tôt, ce sera peut-être pas forcément le 25 décembre, on verra quand on a eu le temps de l'enregistrer, mais en tout cas ce sera la semaine prochaine. Ensuite il n'y aura pas d'épisode le 1er janvier, on reviendra sûrement le 8. Ou alors un petit peu avant, parce que vous avez peut-être capté qu'on n'a pas parlé de top 12. On va parler de cette journée de top 12 au début du mois de janvier. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour notre gros bilan de l'année 2023. Merci de nous écouter, toujours aussi nombreux et même de plus en plus nombreux. À la prochaine!
绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。平凡的。